Le devisement du monde, livre 3, chapitre 41. De l'île de Zanzibar. On trouve là aussi une autre île qui contient 2000 de circuits ayant un roi particulier et une langue distinguée. Les habitants sont idolâtres, les hommes sont gros et courts, et s'ils étaient grands à proportion, ils pourraient passer pour des géants. Ils seront si forts qu'un de ces gens-là portera la charge de 4 ou 5 autres. Ils sont grands mangeurs et un repas d'un de ces hommes-là pourrait suffire à 5 de notre pays. Ils sont noirs et vont nus. Ils ont beaucoup de cheveux et si crépus qu'il faut les mouiller pour pouvoir les étendre. Ils ont la bouche grande, les narines larges et retroussées, les oreilles grandes et le regard affreux. Les femmes sont aussi laides, ayant les yeux affreux, la bouche grande et le nez gros. Ils vivent de chair, de riz, de lait et de dattes. Ils n'ont point de vin, mais ils font une certaine boisson avec du riz, du sucre et autres épices. Plusieurs marchands débarquent en cette île parce qu'il y a beaucoup de baleines et d'éléphants. Ces insulaires sont forts et hardis. Et comme ils n'ont point de chevaux, ils se servent à la guerre de chameaux et d'éléphants, bâtissant sur ces derniers des châteaux de bois qui peuvent contenir jusqu'à 15 et 20 hommes tout armés. Leurs armes consistent en des lances, des poignards et des pierres. Ces sortes de châteaux portatifs sont couverts de cuir. Quand ils vont à la guerre, ils donnent aux éléphants un breuvage qui les rend plus hardis. Cette île abonde en lions, léopards et autres bêtes sauvages que l'on ne voit point dans les autres pays. Ils ont encore une espèce d'animal qu'ils appellent gaffa, girafe, qui a le col long de 3 pas. Il a les jambes de devant bien plus longues que celles de derrière. Il a la tête petite et il est de plusieurs couleurs et marqueté par le corps. Cet animal est doux, il ne fait de mal à personne. Chapitre 42. De la multitude des îles qui sont dans l'Inde. Outre les îles ci-dessus mentionnées, il y en a plusieurs autres dans l'Inde qui sont sujettes et dépendantes des premières et des principales. Le nombre de ces îles est si grand que l'on ne saurait le dire au juste. Si nous croyons les pilotes et ceux qui ont navigué longtemps dans ces mers-là, ces îles sont au nombre de 12 700. Chapitre 43. De la province d'Abasia. Nous avons fait jusqu'à présent la description des pays différents de l'Inde majeure et mineure. La Grande Inde commence depuis la province de Malabar et finit au royaume de Raskomaran. L'Inde mineure commence depuis le royaume de Siamba et finit au royaume de Murphili. Maintenant, nous parlerons de l'Inde moyenne, qui est proprement nommée Abasia. C'est un pays très grand et divisé en 7 royaumes qui ont chacun leur roi, dont il y en a 4 chrétiens et 3 mahométans. Les chrétiens portent une croix d'or sur le front qui leur est appliquée au baptême. Les mahométans, de leur côté, ont une marque qui leur tient depuis le front jusqu'au milieu du nez. Il y a aussi beaucoup de juifs qui sont marqués avec un fer chaud sur les deux mâchoires. Il y a, tout près de ce pays-là, une autre province nommée Aden, où l'on dit que saint Thomas, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, a prêché la foi et qu'il en a converti plusieurs. Après quoi, il alla trouver le roi de Malabar, où il mourut pour la confession du nom de Jésus-Christ. Chapitre 44. D'un certain homme qui fut maltraité par ordre du sultan. L'an de notre Seigneur Jésus-Christ, 1258, le premier roi d'Abasia voulut, pour un motif de dévotion, aller visiter les lieux saints à Jérusalem, de sorte qu'ayant fait part de son décès à ses conseillers, ils le dissuadèrent d'entreprendre ce voyage, lui représentant les dangers des chemins, particulièrement parce qu'il fallait passer en plusieurs endroits sur la terre des mahométans. Mais ils lui conseillèrent d'y envoyer plutôt quelque évêque en sa place, et de le charger de quelques présents pour Jérusalem. Le roi agréa ce conseil et envoya un évêque venant dans le pays d'Aden, encore ainsi nommé, qui est habité par les Mahométans, qui haïssaient Jésus-Christ d'une haine implacable. Il fut pris par ses infidèles et mené au roi d'Aden. Le roi ayant appris de lui qu'il était envoyé de la part du roi d'Abasia à la Terre Sainte, il le chargea de menaces pour lui faire renoncer le nom de Jésus-Christ et embrasser l'Alcoran. L'évêque, persévérant dans sa foi, répondit qu'il aimait mieux mourir que d'abjurer Jésus-Christ pour suivre Mahomet. Alors le sultan, rempli de rage en mépris de Jésus-Christ et du roi d'Abasia, lui fit infliger les plus cruels outrages. Après quoi, il le renvoya au roi d'Abasia. Ce roi, voulant venger l'injure faite à Jésus-Christ, leva une grande armée d'infanterie, de cavalerie et d'éléphants portant des châteaux sur leur dos et déclara la guerre au roi d'Aden. Mais le sultan, ayant fait alliance avec deux autres rois, s'en alla à la rencontre du roi d'Abasia. Le combat s'étant donné, beaucoup des gens du roi d'Aden y furent tués et le roi d'Abasia demeura victorieux. C'est pourquoi il entra dans le pays d'Aden avec son armée et commença à le ravager d'une étrange manière, tuant tous les Mahométans qui voulaient faire résistance. Il resta dans ce royaume un mois entier, et, après avoir causé beaucoup de dommages à son ennemi, il retourna dans son pays chargé de gloire et d'honneur, se réjouissant d'avoir châtié la perfidie du sultan. Chapitre 45. Quelles sortes de différentes bêtes on trouve dans la province d'Abasia? Les habitants d'Abasia vivent de chair, de lait et de riz. Ce pays a plusieurs villes et villages où l'on fait plusieurs ouvrages. On y trouve de très bons bourracans et des étoffes de soie en abondance. Les Abassiniens ont aussi beaucoup d'éléphants. Ils ne naissent point dans le pays, mais on les tire des îles. Les girafes, les lions, les léopards, les chevreaux et diverses autres espèces d'oiseaux que l'on ne trouve point ailleurs y naissent en quantité. Outre cela, il y a en ce pays-là de très belles poules et de très grandes structions, autruches, presque aussi gros que des ânes, et plusieurs autres bêtes et oiseaux propres à la chasse. Enfin, l'on y trouve des chats de plusieurs espèces, dont quelques-uns ont la face presque semblable à celle de l'homme. Chapitre 46. De la province d'Aden. La province d'Aden a un roi particulier qu'ils appellent sultan, ayant sous sa domination des Mahométans, qui ont les chrétiens en abomination. Ce pays est orné de beaucoup de villes et de châteaux et a un très bon port où viennent plusieurs navires qui apportent diverses sortes d'épiceries. Les marchands d'Alexandrie viennent acheter ces aromates et les chargent dans de petits bateaux qu'ils conduisent par une certaine rivière pendant 7 journées de chemin. Après quoi, ils en chargent des chameaux qui les portent à 30 journées de là jusqu'à un autre fleuve appelé d'Égypte, le Nil, où, étant arrivés, ils les chargent de nouveau sur des vaisseaux qui les mènent à Alexandrie. Il n'y a point de plus court chemin que celui-là pour aller de ces pays orientaux à Alexandrie. Ces négociants amènent, outre cela, beaucoup de chevaux quand ils vont dans l'Inde pour trafiquer. Le roi d'Aden exige de ces marchands qui passent par son pays et emportent des parfums et autres marchandises un très fort droit, ce qui lui rapporte un grand profit. Lorsque le sultan d'Égypte, en l'an 1200, assiégeait Acre pour la reprendre aux chrétiens, le sultan d'Aden lui envoya 30 000 cavaliers et 40 chameaux. Ce n'est pas qu'il fût aise qu'il réussît dans son entreprise, mais parce qu'il souhaitait la destruction des chrétiens. À 40 000 du port d'Aden, en allant vers le septentrion, on trouve la ville d'Essier, qui a sous sa dépendance plusieurs autres villes et châteaux, et qui appartiennent tous au roi d'Aden. Il y a aussi près de cette ville un très bon port, d'où l'on transporte un nombre infini de chevaux dans l'Inde. Ce pays abonde en encens blanc, qui est très bon, qui découle de certains petits arbres peu différents des sapins. Les habitants font des ouvertures dans l'écorce de ces arbres pour en tirer l'encens, et, malgré la chaleur qui est fort grande, il en coule beaucoup de liqueurs. Il y a aussi en ce pays-là des dattiers et des palmiers. Mais il n'y a point de grains si ce n'est un peu de riz. Il y a en récompense de très bons poissons, surtout des thons, qui passent pour excellents. Ils n'ont point de vin, mais ils font une bonne boisson avec du riz, des dattes et du sucre. Les moutons que l'on trouve en ce pays-là sont petits et, n'ayant point du tout d'oreilles, ils ont seulement à la place deux petites cornes. Les chevaux, les bœufs, les chameaux et les moutons vivent de poissons. C'est leur manger ordinaire, vu qu'à cause de l'extrême chaleur, il est impossible de trouver de l'herbe sur terre. Il se fait 3 mois de l'année une pêche où il se prend une si grande quantité de poissons qu'il est impossible de l'exprimer. Ces mois sont mars, avril et mai. Il sèche ses poissons et les garde. Ils en donnent toute l'année à leurs bêtes au lieu de pâturage. Ces animaux mangent plus volontiers de ces poissons secs que des poissons frais. Les habitants font aussi du biscuit de poisson sec, et voici comment. Ils coupent le poisson fort menu et le réduisent en poudre, après quoi ils en font une pâte et le laissent sécher au soleil. Et ils mangent, eux et leurs bêtes, de ce pain-là toute l'année. Ici prend fin en réalité la relation régulière de Marco Polo. Mais les divers manuscrits qui nous l'ont conservé et qui jusque-là s'accordent comme disposition générale des matières, offrent une partie supplémentaire plus ou moins étendue, où sont rangées, sans qu'un même ordre y soit observé, des notes détachées, des récits épisodiques. Sans aucun doute, ces fragments émanent de la même main que le corps du livre. Son récit principal achevé, l'auteur a voulu y joindre maints souvenirs qui n'avaient pu y trouver place. Mais les copistes sont venus qui ont fait, chacun à leur manière, un choix dans cet ensemble accessoire. Le texte que nous avons suivi a gardé 4 chapitres consacrés au pays qui s'étendent entre les frontières septentrionales de la Chine et les régions polaires. Ces pays, qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie d'Asie et qui restèrent absolument inconnus des Occidentaux jusqu'au siècle dernier, durent forcément de très longue date être, comme aujourd'hui, en relation fréquente et suivie avec le grand empire qui les avoisine. Pendant son séjour au Cathay, Marco Polo fut donc à même de se renseigner très exactement sur ces contrées et sur leurs habitants. Nous en trouvons la preuve dans ces chapitres, que nous avons d'autant mieux cru devoir conserver que, contrôlés par les récits modernes, ils démontrent une fois de plus jusqu'à quel point sont dignes de crédit les assertions du célèbre Vénitien. Chapitre 47. De certains pays habités par les Tartares. Jusqu'à présent, j'ai parlé des pays orientaux qui sont du côté du Midi. Je toucherai à présent, en peu de mots, quelques contrées situées au septentrion, ayant oublié d'en parler dans les autres livres. Dans les pays septentrionaux, il y a beaucoup de Tartares qui ont un roi de la race des empereurs de cette nation. Ils gardent les mêmes coutumes et les mêmes manières de vivre que les anciens Tartares. Ils sont aussi idolâtres et ils adorent un certain dieu qu'ils appellent Natigay et qu'ils croient maître souverain de la terre et de tout ce qu'elle produit. Ils font beaucoup d'images et de simulacres de ce dieu. Ils ne demeurent point dans les villes ni dans les villages, mais sur les montagnes et dans les campagnes de ce pays-là. Ils sont en grand nombre, ils n'ont point de blé, mais ils vivent de chair et de lait. Ils vivent ensemble en bonne intelligence, et obéissent de bon gré à leur roi. Ils ont un nombre presque infini de chevaux, de chameaux, de bœufs, de moutons et d'autres bêtes à cornes. Ils ont aussi de très grands ours, de forts beaux renards, et l'on y trouve des ânes sauvages en grande quantité. Entre les petites bêtes, ils en ont une certaine espèce dont on tire de très belles peaux, appelées vulgairement zéblines. Il y a aussi plusieurs autres sortes d'animaux sauvages, dont ils tirent de la viande suffisamment pour se nourrir. Chapitre 48. D'un autre pays presque inaccessible à cause des boues et des glaces. Il y a encore d'autres pays dans cette partie du septentrion, mais plus avant que celui dont nous venons de parler, dont l'un est plein de montagnes et produit divers animaux, comme des hermines, diverses sortes d'herculiens, écureuils, des renards noirs et d'autres dont les habitants tirent de fort belles pelleteries et que les marchands y vont acheter pour apporter en nos pays. Mais les chevaux, les bœufs, les ânes, les chameaux et autres gros animaux pesants ne sauraient aller dans ces endroits-là, car c'est un pays plein de marais et d'étangs, à moins que ce soit en hiver lorsque tout est gelé. Car dans d'autres temps, quoiqu'il y ait toujours de la glace et qu'il y fasse un fort grand froid, la glace n'est cependant pas assez forte pour porter un chariot ou des bêtes pesantes, puisque les hommes ont bien de la peine à marcher sur cette terre, tant c'est fangeux et marécageux. Ce pays peut avoir, vers le septentrion, 13 journées d'étendue, et c'est là que les habitants ont de ces animaux qui donnent ces belles pelleteries, dont ils tirent un gain considérable. Car il vient là des marchands de toutes sortes de pays pour acheter de ces pelisses, et qui en emportent tous les ans une grande quantité. Voici comment ces marchands sont introduits dans ce pays-là. Ils ont des chiens, accoutumés à tirer des carrosses, traîneaux. Ces voitures n'ont pas de roues et sont faites de bois fort léger et fort uni. Deux hommes peuvent tenir dans ces traîneaux sans crainte de renverser dans la boue parce qu'ils sont fort larges d'assiette. Quand il vient donc quelques marchands, il se sert d'une pareille voiture à laquelle l'on attache 6 de ces chiens d'une certaine manière, et en quelque endroit que les conduisent le conducteur, qui est assis dans le traîneau avec le marchand, ils traînent ce petit engin au travers de l'eau et de la boue, sans aucune résistance. Et comme ils ne pourraient supporter ce travail plus d'un jour, à la fin de la journée, on les détache, et on en reprend d'autres, y ayant dans ce pays-là beaucoup de villages qui nourrissent de ces chiens, exprès pour cet usage, et de cette manière un marchand peut aller jusqu'au fond de ces pays-là. Ces traîneaux ne sauraient porter de lourds fardeaux, les chiens ne pouvant pas traîner plus que le marchand, le voiturier et un paquet de peaux. Le marchand est donc obligé de changer de pareille voiture tous les jours jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans les montagnes où l'on vend de ses pelisses. Chapitre 49. Du pays des ténèbres. Il y a encore un autre pays bien plus avant dans le septentrion que ceux dont nous venons de parler, car c'est tout à fait à l'extrémité. On appelle ce pays-là ténébreux, parce que le soleil n'y paraît pas pendant une grande partie de l'année, de sorte que les ténèbres n'y règnent pas seulement pendant la nuit, mais aussi pendant le jour. Il ne paraît qu'un faible crépuscule fort obscur. Les hommes de ce pays-là sont beaux, grands, de bonne corpulence, mais pâles de couleur. Ils n'ont ni roi ni prince, vivent en bêtes et font tout ce qui leur plaît sans s'embarrasser de civilité ni d'humanité. Les Tartares, qui sont voisins de cette nation, font souvent des courses dans ce pays ténébreux, leur enlèvent leurs bêtes et tout ce qu'ils rencontrent et leur causent bien d'autres dommages. Et comme ces brigands sont en fort grand danger dans leur irruption à cause de la nuit, qui tombe incontinent et qui pourrait les surprendre, voici la ruse dont ils se servent pour l'éviter. Quand ils sont résolus à faire quelqu'une de ces courses, ils amènent avec eux des cavales avec leurs poulains, qu'ils laissent à l'entrée du pays avec des gardes, ne menant avec eux que les cavales. Et quand ils reviennent avec leur butin et que la nuit les surprend, alors, par le moyen de leurs cavales, qui s'empressent de retourner à leurs poulains, ils retrouvent leur chemin sans aucune difficulté. Car ils lâchent dans ce temps-là la bride à leurs cavales et les laissent aller à leur volonté. En quoi je trouve qu'ils ont raison de leur faire cette gracieuseté, vu le service considérable qu'elle leur rende. Car la nature les porte tout droit à l'endroit où sont leurs poulains, et par ce moyen, les hommes retrouvent leur chemin, qu'ils n'auraient pu trouver sans l'assistance de ces bêtes. Les habitants de ce pays-là ont aussi diverses sortes d'animaux, dont ils tirent de précieuses pelisses, qu'ils portent dans les autres pays, et dont ils tirent un grand profit. Chapitre 50. De la province de Ruthénie. Les Ruthéniens, ou Russes, ou Russiens, occupent une très grande province qui s'étend presque jusqu'au pôle arctique. Ils sont chrétiens selon les rites des Grecs. Ils sont blancs et beaux, tant les hommes que les femmes. Ils ont les cheveux plats. Ils payent un tribut au roi des Tartares, auquel ils sont voisins du côté de l'Orient. Il y a aussi chez eux une grande quantité de pelleteries précieuses, ils ont beaucoup de mines d'argent. Mais le pays est très froid, parce qu'il s'étend du côté de la mer glaciale. Il y a cependant quelques îles dans cette mer où l'on trouve des chèvres et des faucons en abondance, que l'on transporte en différentes parties du monde.